en même temps que la WWE change son ses quartiers généraux qui va quitter Titan Towers. Nous, on vous accueille dans nos nouveaux quartiers généraux dans le studio numérique.
C'est aussi spacieux que Titan Towers. On a 4-5 étages, on a un service de secrétariat.
Il y a des podcasts là, non-stop qui roulent tout sur plein d'étages en même temps.
Le décor est plus beau. Puis en plus, juste avant de commencer, on a réalisé que quand François se tasse, derrière, qu'est-ce qui est écrit? Ham Hawk! Woo! Donc, c'était même pas prévu. C'est les dieux de la lutte qui travaillent pour
nous. Moi, je retiens la partie jambon plus que la partie hawk.
C'est les deux mots qui me représentent le plus.
Ça sera au fan du petit paquet de décider du surnom.
Merci d'être là, cette édition spéciale hors série du petit paquet. Le paquet trimé. C'est le genre de choses qu'on fait dans les événements spéciaux.
Ben ouais, on se met propre. C'est ça.
Puis là, aujourd'hui, on va pas se lancer dans l'actualité tout de suite. On va en parler un petit peu à la fin de l'émission parce qu'il y a des choses quand même intéressantes qui se sont passées cette semaine. Et on va aussi plus tard dans l'émission vous dire comment remporter les fameux billets pour aller
Holy
à Raw et à SmackDown.
Deux paires.
C'est pas rien. Donc, on pourrait vous donner les infos là. Non. On pourrait.
Oui. On le fera pas. C'est jusqu'à la fin.
C'est ça.
C'est comme le dessert.
C'est ça.
Donc, commencer par le dessert, c'est le fun. Par exemple, tu peux déjeuner avec le dessert.
Ben, c'est le fun de quand tu deviens un adulte puis que tu te rends compte exactement. Si je veux manger une rangée de biscuits au complet, il n'y a personne pour m'empêcher de le faire. Puis je peux déjeuner avec ça si
tout
ça me tente.
Tout à fait. Mm-hmm. Tu peux déjeuner au beignet si tu veux, mettons, Tim Hortons, pour ne pas les nommer. Je prépare un sandwich de déjeuner. Je prépare un beignet avec mon café puis j'ai mon déjeuner.
C'est à cause tu pourrais laisser faire le déjeuner puis juste prendre le beignet.
C'est à cause de ce genre d'habitude-là que, tu sais, genre, à la base, moi puis Stéphane, nos sièges sont à la même hauteur. Puis Stéphane est plus grand que moi dans la vie, je pense. Sauf que là, quand il s'est assis dessus, ça fait comme...
C'est une illusion d'optique. Le plancher est tilt.
Oui, ben, moi,
comme,
c'est ça.
Comme tu te permets de lancer Stéphane en avant de l'autobus, en partant de même avec les chaises, je vais quand même vous mentionner, tu sais, comme laptop, des belles feuilles. Ça, c'est les notes de Mathieu Poulin.
C'est lui qui enseigne à nos jeunes. Donc, ouais, surprenez-vous pas s'ils écrivent le français tout croche, puis que leurs examens ont l'air de dividende.
OK, bon, non, j'avoue, j'ai mérité l'insulte en retour.
Messieurs, on voulait cette semaine, on est à quoi, deux semaines de WrestleMania, mon Dieu, ça vient vite.
Ouais, très vite.
Avez-vous vos billets, d'ailleurs, Stéphane, faudrait aussi... en parler avec les gens sur la page Facebook. Qui va à Mania? Qui va être là?
On n'a pas
qui,
seul.
Qui va voir quoi?
Parce quel quartier on évite pour
il y a beaucoup de shows. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de shows en plus pendant toute la fin de semaine. Nous autres, il y en a une couple qu'on a spoté. Ouais. Entre autres, on risque de partir très tôt avant le vendredi matin.
On se garde ça pour la semaine prochaine. On parle de NXT, puis qu'est-ce qu'on fait à New York, genre?
Ben, je fais ce que je veux.
Bon plan.
C'est une suggestion.
Si je décide que je te parle de ça, je te parle de ça.
Je veux passer 4 heures à New Japan. Moi, on n'a pas le temps aujourd'hui.
OK.
Parce qu'il y a une ciboire de cartes de la New Japan.
Ce qu'on voulait faire cette semaine, c'est aborder quelques grandes questions dans l'histoire de la lutte. Entre autres, WrestleMania. WrestleMania, c'est un événement très polarisant à toutes les années. Ça se veut la culmination de toutes les histoires de l'année. C'est très satisfaisant ou complètement décevant en fonction des années. Donc, on voulait avoir une petite discussion à savoir quels ont été les meilleurs et les pires WrestleMania dans l'histoire. Mm-hmm. Commençons dans le positif avec les meilleurs. Puis, Mathieu, toi, tu as fait un retour à la lutte assez récemment. Mais sinon, tu te rappelles très bien de un des événements classiques à WrestleMania, on parle de 2001, si je me trompe.
Ben, c'est ça, WrestleMania 17, c'est moi, dans le fond, mon amateura de lutte, ça doit être un mot qui existe,
c'est un amateura.
Les deux périodes durant lesquelles j'étais fan de lutte, c'est ça, c'est, je suis bien tombé quand j'étais jeune, mettons, quand j'avais autour de 16-17 ans, c'était direct pendant l'ère attitude, donc, tu sais, j'étais précisément dans le public cible. J'ai été chanceux parce qu'à ce moment-là, il y a eu justement le fameux WrestleMania 17. On n'est pas encore rendu à déterminer lequel est le top de tous les WrestleMania, mais sans parler de consensus, généralement, chez les fans de lutte, on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le décer.
C'est l'aspirant numéro un à la question, ça, il n'y a aucun doute.
Ouais, puis tout le monde est comme... On a tous un beau souvenir de WrestleMania 17. Il y a personne qui fait comme « Ah ouais, mais moi je suis contrariant puis je l'ai pas aimé. »
Non.
Même moi, là, je l'ai aimé.
C'est ça. Puis il y avait pas beaucoup de moments faibles dans la carte. Faut dire, il y avait le Gimmick Battle Royale que j'ai réécouté vite. Ouais, c'était funny, mais tu sais, t'avais genre, je sais pas, ça durait à peu près comme 15 minutes, 20 minutes sur ça. Mettons que c'est 20 minutes, t'as à peu près 17 minutes d'entrée et 3 minutes de combat.
C'est un très bon ratio pour des gars de 50 ans en costume. Là.
Ben, c'est ça. En fait, on pouvait pas faire vraiment autre chose que ça. Finalement, c'est Iron Sheik qui gagne. Je sais pas, ça faisait combien de temps qu'il était à la retraite à ce moment-là, là, mais c'était tous des vieux de la vieille qui participaient. Il y avait Doink the Clown.
De mémoire, le Sheik, là, il a accroché ses bottes pointues. là-dessus, genre fin des années 80.
Non,
là.
Mais c'est ça.
Peut-être début des années 90, il est pas jeune, là, Iron Sheik. Puis il est pas tout là non plus. Si vous le suivez sur Twitter, Iron Sheik, il est pas tout là. Il traite tout le monde de jabroni.
Mais la nostalgie, ça marche.
La nostalgie, ça marche, c'est ça. Il y avait un lutteur, en réécoutant justement le Battle Royale, j'avais complètement oublié son existence. Je sais pas à quel point il est apparu souvent à d'autres moments que dans cette Battle Royale-là. C'était The Goon, un gars déguisé en hockeyeur.
Le Goon a été très peu présent, mais on s'en souvient. Tu sais, il est dans le downtime un petit peu, le 95-96, où il y avait un éboueur, un clown, il y avait le joueur de hockey, puis c'était juste ça. C'est un joueur de hockey, puis ses bottes ressemblaient à des patins.
Exactement.
C'est l'essentiel du
personnage. Je regardais, je me suis rapproché de mon écran ordi, j'étais comme, y a-tu des protège-larmes? C'est-tu des vrais patins? Mais non, effectivement, ça aurait pas vraiment bien fonctionné dans le ring.
D'ailleurs, si je me souviens, dans le Gimmick Royal Rumble, Duke de Dumpster Josie aussi était là. Il était avec sa poubelle. On a vraiment été dans l'avant-attitude era, là, ce qui était la new era.
C'est ça, le Hillbilly qui monte ses épaules.
Je comprends pas pourquoi vous perdez tout ce temps-là pour parler de la Gimmick Battle Royale.
C'est le meilleur,
quand on parle d'une carte. Qui a eu un TLC, TLC 2 entre Edging Christian, les Dudley Boys, les Hardys. On parle de Austin contre Rock, on parle de Taker, Triple H, on parle de Angle, Benoit, puis là, vas-y, allez-y, faites-moi 10 minutes sa gimmick Battle Royale.
Moi, mon moment marquant, c'est l'Iron Sheik, j'ai-tu le droit?
mais bon, tu parlais de TLC, en fait, comme tu l'as souligné, c'est pas le premier TLC, c'était l'année précédente, là, WrestleMania 16.
C'était
à
SummerSlam.
À SummerSlam, OK. Donc, il n'y avait pas l'attrait de la nouveauté. Bon, tu sais, justement, un des moments forts dans l'histoire de WrestleMania, c'était le WrestleMania 10 avec HBK puis Razor Ramon. Ça, c'était, si je ne m'abuse, le premier ladder match de l'histoire de la WWE.
La c'est considéré comme le match pionnier. Là. En même temps, la WWE a un historique de réécrire justement son histoire en fonction de ce
avec un H en italique. Là, ça les arrange.
Mais en tout cas, celui qu'on retient avant toute chose, c'est le TLC 2. Là. C'est lui qui a vraiment step up la game de façon assez spectaculaire. Ouais. On se souviendra du spear final de Edge sur Jeff Hardy qui part après les ceintures accrochées au plafond. Donc ça, c'était particulièrement gagnant. Mais c'est surtout le main event là, qui fait ce WrestleMania-là. Rock contre Stone Cold, c'était leur deuxième affrontement WrestleMania. C'est ça, là, c'était The Rock qui était le champion. Puis l'histoire qui menait à ça, en fait, c'est que c'est quoi le nom de la femme de Austin déjà? Debra?
Ancienne Debra McMichael. Je sais pas si elle avait changé de nom pour Austin.
C'était juste Debra.
On la connaissait sous le nom de Debra. Et puis là, Vince McMahon avait décidé que Debra allait être la manager de The Rock pour créer de la bisbée entre les deux. Austin était fâché. The Rock était fâché de ça. Il voulait rien savoir. La tension a monté au cours des semaines précédentes. Et en bout de ligne, ils ont fini par s'affronter. Un match qui était visuellement impressionnant, ne serait-ce que pour les deux faces remplies de sang. Je pense que c'était le spot avec la cloche de gâtés, ring qui leur a fendu le front.
Puis on se souvient aussi que dans le build-up, il y avait toutes les entrevues d'Austin qui disaient « Je dois remporter ce titre-là. Mm-hmm. Je vais faire n'importe quoi pour remporter ce titre-là. » Et là, ça nous amène je vais pas dire le plus grand heel turn parce que peut-être que Hogan pourrait passer en avant, mais un des heel turns les plus mémorables pour finir WrestleMania, Austin et Vince McMahon qui se serrent la main.
Le heel turn se fait de façon graduelle aussi, c'est comme une espèce de montée dramatique dans le match. Puis aussi, tu sais, c'est intéressant le rôle de Vince dans le WrestleMania au complet, parce que quelques moments plus tôt, il y avait un street fight Vince contre Shane, parce que ça faisait comme seulement quelques semaines que Shane avait comme acheté la WCW, donc ça avait acheté vraiment de l'huile sur le feu, mais de façon vraiment intense, donc vraiment, toutes les as étaient alignés dans ce pay-per-view-là pour faire quelque chose de vraiment marquant.
Absolument.
Non, pis c'était le gros, tu sais, on l'oublie aussi un petit peu, mais Austin revenait plus de blessure, parce que ça faisait un petit moment, mais c'était dans son angle de, il a gagné le Rumble à cause de son... Le Royal Rumble 2001, c'est le Rumble de Austin. Est-ce qu'il va le gagner en retour de blessure? Parce que c'est comme sa dernière chance, entre parenthèses. Donc, le heel turn prenait beaucoup d'impact aussi à cause de ça, parce que c'était un héros. Là. Steve Austin, en 2001, était un intouchable. Donc, quand il a décidé de faire ça, c'est parce que tu voyais qu'il était à bout de ressources. Faut juste comme faire abstraction de ce qu'ils ont fait avec le Austin méchant, mais le moment puis le climax était absolument parfait.
Puis il faut faire abstraction que c'est à cause de ce moment-là que Cena a fait toute sa carrière en face, que Roman probablement... Moi, je pense
qu'ils ont toujours
regretté ce heel turn-là, de cette figure-là qui était tellement populaire. Mm-hmm. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle... il faut qu'on accepte nos top babyface comme étant...
La foule l'a jamais vraiment accepté. Ils ont toujours aimé Austin, même quand il était
méchant. Austin a
toujours
été populaire. T'sais.
Donc, c'était un méchant dans l'histoire.
Et c'est ce moment-là qui nous a amené vers le chemin du Watt. Donc, est-ce que c'est le pire moment de l'histoire de la lutte?
Il faut peut-être... Watt, c'était fun de Watt, par exemple. C'est juste les 15 ans après qui sont épouvantables.
C'est là qu'on l'entend encore aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Le moment du Watt était le fun. Mm-hmm.
Stéphane, toi, tu vas nous amener un petit peu plus en arrière, je pense.
Ouais, moi, étant l'historien non officiel de la patente, puis celui qui l'écoute depuis qu'il est jeune, moi, c'est le 10 que j'ai vraiment un lien affectif avec. En 94, c'était le retour au Madison Square Garden, le lieu où ça a commencé, c'était ça la promotion de l'événement, on retourne à la maison, c'était un chiffron, c'était le 10, fait qu'ils ont fait une grosse affaire. J'ai partagé d'ailleurs un souvenir Facebook là, cette semaine à cause du premier ladder match, HBK Razor Ramon, c'était cette semaine, le 25e anniversaire, mais c'est plus que ça, parce que moi j'avais 10 ans. J'étais pile dans l'âge où la lutte, là, c'est... Moi, tu me donnes un gros méchant, je vais embarquer.
Fait que t'as l'âge de WrestleMania.
J'ai l'âge de WrestleMania. Les WrestleMania, c'est... Ils me suivent. Je suis l'inspiration.
Faites vos calculs à la maison.
Faites vos calculs à la maison. Je suis en avril en plus, donc je suis pile dessus, là. Donc, tu sais, moi, Yokozuna, quand j'étais petit, là, c'était pas un bon lutteur, objectivement. Là. C'était un homme de 500 livres qui bougeait correct pour son poids, mais il était plus grand que nature.
Le gimmick fonctionnait beaucoup.
Donc, à ce moment-là, c'était pas tant le work rate que l'histoire racontée. Puis là, l'histoire, t'avais Yokozuna qui avait deux combats de championnat le même soir. C'était le couronnement de Brett à la fin de la soirée, parce qu'enfin, il battait Yokozuna, puis il se faisait soulever par tout le vestiaire. Fait que c'était comme un passage de flambeau de on s'éloigne des Monsieur Muscles, on s'éloigne de la poursuite pour les stéroïdes, on s'éloigne de Lex Luger qui n'avait pas marché. Là, c'était le temps de Bret Hart. C'était à WrestleMania 10. Et, ironiquement, il a perdu le premier combat de la carte.
C'est Bret Hart. Un match 5 étoiles contre son frère.
On ouvre la carte avec Bret contre Owen. Owen est encore méconnu, est en pleine ascension, a pas encore sa gimmick de Black Sheep, est pas encore considéré comme un méchant à proprement parler. C'est encore le Rocket. Tu sais, début d'Owen, pas encore King of the Ring. Il bat Brett avec un petit roll-up surprise après 25 minutes. Le combat, je l'ai réécouté cette semaine, il est super bon. Il se tient, c'est de la lutte technique, ils font du match wrestling. Il donne une petite leçon à tout le monde, c'est de même ça se fait quand on connaît ça. Et tu pars ton show en faisant perdre Brett, mais il termine la soirée sur les épaules de tout le monde. Donc, il y a une espèce de balance karmique, puis Owen, après ça, a couru après Brett toute l'année. Mais à l'époque, c'était le plus gros. T'sais, ils ont vraiment fait un show de boucan. D'ailleurs, à tous les chiffres le 10, 20, 30, la I fait toujours un gros show avec ça. Puis ça, c'était le premier. Puis honnêtement, oui, il y a des combats moins intéressants sur la carte. Là. On est à l'époque, on est en 94. Tu sais, je pense notamment là, à un match avec Bam Bam Bigelow contre lui, et Luna Vachon contre Dink pis Dunk. Là,
Dink et Dunk.
La femme avait le droit de se battre avec le nain. Donc, c'était un peu louche. Là. C'était un mixed tag team, mais c'est ça. Quand le nain était dans le ring, c'était Luna. Puis quand les deux hommes se battaient, fait il y avait un peu de comédie, mais
est-ce que Dink et Dunk sont venus avant Dink et Dunk? Est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet? Peut-être, non?
Ils sont malheureusement après, mais. Après, okay, ouais. Puis Dink avait des frères aussi, c'était louche.
Parle-nous de Earthquake puis d'Adam Bomb qui sont affrontés dans un classique.
C'était pas si pire. Ça a duré comme 2 minutes et demie.
35 secondes.
Le 35 secondes.
C'était un squash. C'était même pas sûr que c'était un match. Harvey Whippleman fait juste faire une promo. Mais tu sais, Macho Man a un street fight avec Crush qui est quand même pas désagréable. T'as un jeune PCO avec Jacques Sojo à l'époque qui a un combat par équipe qui finit en queue de poisson, mais c'est quand même les Québécoises dans leur belle époque. Et je l'ai dit vite tantôt, c'est le ladder match. C'est Razor Ramon contre HBK. Vous le réécoutez à cette heure, puis tu sais, on a vu les TLC, on a vu tous les moves de fou. C'est sûr que c'est un peu décevant si tu y reviens, parce que ils font pas de grosses cascades. Le gros bump, c'est Sean qui fait un splash. Mais la psychologie, l'utilisation de l'échelle, il y en a une. Il y en a pas 22, il y a pas de surenchère. C'est une échelle, on sait pas où ce qu'ils s'en vont.
Puis à un moment donné, l'échelle, elle faille un petit peu. Si bien quand t'écoutes ça, tu te dis, est-ce qu'ils vont être capables de se rendre jusqu'à la fin du match? Est-ce qu'elle va tenir debout pour qu'ils soient en mesure de décrocher les ceintures?
Puis il y avait pas encore l'espèce de loi non écrite où il faut que ça te prenne 15 jours monter 3 barreaux d'échelle. Ils montaient à une vitesse raisonnable. Fait que les gars, ils étaient toujours en course. Et la fin du match, d'ailleurs, c'est Sean qui est pris dans les cordes.
Ouais, bon,
mais il n'est pas pris pendant 15 ans. Non, il se déprend à la fin, puis Razor, faut qu'il monte vite, puis il décroche les ceintures, puis il se garoche en bas. Donc, tout ça, une espèce de... T'es un peu toujours en allaitance quand tu regardes le combat, et ils se connaissaient très bien, c'était la clique, c'était les deux gars qui s'en allaient vers le sommet de la WWF à l'époque. ce match-là est classique pour une raison, même si c'est pas les cascades d'un TLC.
Ouais, mais ça, justement, ça repassait cette semaine sur le network, le WrestleMania 10. Puis quand je zappais, je suis arrivé au début du ladder match, puis je l'écoutais. En fait, honnêtement, c'est la première fois que je l'écoutais, ce match-là. Ah. Là, je savais qu'il y avait quand même quelque chose de spécial, quelque chose de mythique autour. Puis même avec le recul, il vieillit bien, le match, parce que les deux lutteurs travaillent bien. Puis c'est sûr que faut que tu te mettes dans l'état d'esprit, c'est la première fois qu'il faisait ça, mais non, ça prend pas une ride. Seule affaire que j'ai trouvé un peu plate avec le main event dont tu parlais tantôt, c'est que oui, Bret Hart gagne, mais la fin du match, c'est comme Yokozuna qui va aller faire son bonsai drop, mais qui il s'enfarge, il tombe sur le dos, puis il se fait piner. 1, 2, 3.
C'est toujours un peu ça,
les fins avec Yokozuna, t'es toujours un peu...
Même quand il gagnait, c'était souvent Mr. Fuji qui envoyait une pocket cell. C'était tout le temps un peu overwork.
On va en reparler dans les WrestleMania, dans les mauvais. Là, justement, moi, je vous amène 20 ans plus tard. Tu parles de lutter deux fois sur la carte. Y a un certain Daniel Bryan à WrestleMania 30. On est arrivé à un point, le point culminant, je pense, d'une des meilleures histoires qui a été racontée par la WWE. Meilleur vidéo package ever, le vidéo avant Triple H, Daniel Bryan sur A Monster. C'est sûr que tu l'as déjà vu. Là.
Même si je suis pas
Turning into a Monster, puis sur toute la montée de Daniel Bryan.
Parenthèse, ça me rappelle aussi avantage pour le 17, c'était My Way de Limp Bizkit qui était la tune 10, puis j'étais comme en gros dans mon triple.
Puis d'ailleurs, avant 19, ils en ont fait un autre sur une autre tune de Limp Bizkit, comme s'ils voulaient faire un lien, puis ça marchait moins, en tout cas.
Limp Bizkit marchait moins 2 ans après aussi, c'est ça.
C'est ça qui va être Hall of Fame,
mais c'est à 19 qu'ils sont en show, puis ils font l'entrée de Taker, puis ils font une toune plus tard qui est même pas un succès, là. Je l'ai réécouté, là, j'étais comme, c'est quoi cette toune-là? Pourquoi ils jouent cette toune-là à WrestleMania?
Ils ont pas tant de succès que ça, Limp Bizkit. Quand tu revisites, il y en a 4-5.
On va pas se lancer dans Limp Bizkit bashing ici aujourd'hui.
Je parle de ça, là.
Tu parlais de Papa Roach, peut-être, mais Limp Bizkit, c'est quelque chose d'autre.
Commence pas avec Papa Roach.
Daniel Bryan qui bat Triple H en ouverture de carte après un combat par équipe sur la pré-carte qui compte pas. Le moment en main event, justement, quand il fait taper Batista avec... moi, c'est le meilleur moment de Michael Cole ever. Tap out Batista, puis après ça, quand il call le Miracle on Bourbon Street, c'est un moment tellement fort. Ouais. Brock Lesnar qui bat l'Undertaker, tu sais, je veux dire, il y a eu plein de mauvais matchs entre guillemets dans cette streak là. Ça a été un peu un accident parce que tu sais, il y a eu des rumeurs que à un moment donné, l'affrontement contre Diesel, il était supposé perdre, puis on a décidé de le faire gagner à la dernière seconde. Il y a eu un autre affrontement, tu sais, au début, quand c'était pas encore a thing.
Parce que vous regardez les 10 premiers, là, c'est tous des combats très bofs.
À un moment donné, ils se sont rendus compte, on a peut-être quelque chose là, puis on a menti là-dessus, puis c'est là que c'est devenu payant. On peut toujours questionner la décision de donner la streak à Brock Lesnar. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, mais le moment... Je vais toujours me rappeler, j'ai failli me faire mettre dehors du bar, tu te rappelles?
Il a fallu que je le réécoute, moi, WrestleMania 30, parce que cette soirée-là, oui, on vivait des émotions, mais on vivait beaucoup de pichets aussi.
les deux étaient peut-être un petit peu liés.
On a peut-être sur-réagi à la situation.
Non, la situation s'apprêtait bien à ça.
Je me suis de ma chaise qui a pris le bar, de toi qui a failli se faire sortir. Donc, tu sais, il y a une ligne, là. On était peut-être sur la ligne.
Il y a une ligne. Puis tu sais, il faut aussi... Pour trouver les bons WrestleMania, il faut aussi regarder la force, je pense, du reste de la carte, parce que des moments forts, il y en a un peu partout. Écoute, Cena contre Bray Wyatt qui sont affrontés dans un excellent match. On a beau pas être un peu déçu du résultat que Cena a gagné, mais le build-up avait été super intéressant, le combat a été super intéressant, puis...
C'est le meilleur combat de Bray Wyatt.
Ça répète le combat qu'il aurait fait Bray Wyatt s'il avait pu gagner, malheureusement.
Game, mais...
On a Cesaro qui a gagné cette année-là la Battle Royale. Une présence du Shield qui est venu squasher Kane puis les New Age Outlaws. Fait que pour moi, c'était une carte très forte, remplie de bons moments. Puis là, je skip en plus l'intro avec Austin, Rock et Hogan, qui a été un moment assez extraordinaire. Je me rappelle que le son marchait pas
Ah oui, c'est bon,
j'étais bleu noir puis
je sais pas, c'est la dernière fois qu'on est allé là, il me semble qu'on a pas vu.
Oui, je sais pas, après
ah non, c'est pas vrai, on est allé voir un autre pay-per-view, je m'en souviens, il y avait des circonstances particulières de ce pay-per-view là.
D'accord. On fait pas l'honneur de les nommer.
Non, exactement.
C'était un SummerSlam il y a quelques années qu'on était allé, mais bref.
Puis brièvement, je pense qu'il y a 31 aussi qu'on voulait mentionner, ne serait-ce que pour le Heist of the Century, je pense que c'était un moment extrêmement fort dans l'histoire de WrestleMania.
C'est ça, tu sais, on avait peut-être l'impression que la gimmick Money in the Bank commençait à tourner en rond, devenait un peu prévisible, mais jamais on aurait pu imaginer que ça se passe dans le main event de WrestleMania. Je pense que c'est tout le monde attendait un peu la fin du main event tel que prévu avec une brique et un fanal. Personne, tu sais, allait être satisfait. Et là, la WWE trouve le moyen de swerver tout le monde puis de faire en plus une image. Tu sais, non seulement le moment est winner, mais la façon selon laquelle ils l'ont filmé était particulièrement winner. T'sais, c'était un stade qui était ouvert. En plus, c'était un des rares WrestleMania qui se passe le jour. C'est à San Francisco.
C'est à San Francisco, celui-là.
C'est le Levi's Stadium, me semble. Puis c'est ça, c'est un des rares WrestleMania qui se passe le jour. Ça rajoute une espèce de dimension un peu spéciale parce que c'est sur la côte ouest. Et donc, l'image finale avec les feux d'artifice classiques à WrestleMania, Seth Rollins qui brandit le titre, merveilleux. Oublions pas que Rusev est rentré sur un tank dans ce WrestleMania-là aussi. Un moment marquant.
Un tank de méchant.
Un tank de méchant, oui, tout à fait.
À l'époque.
Puis sinon, Daniel Bryan qui il était un russe comme d'adoption.
Il y a plein de phrases extraordinaires qu'il a juste parlé de la lutte qui nous permet de les dire. C'était un russe à l'époque.
Puis un des meilleurs RKO que j'ai vu, la transition avec le curb stomp de Seth Rollins de toute beauté.
Ouais, puis dans les mentions honorables, avant qu'on quitte les meilleurs WrestleMania, moi je voulais souligner le 19.
Ouais.
On a parlé beaucoup du 17, Rock Austin 2. Le 19, c'est Rock Austin 3. C'est un peu la fin d'Austin. Dans le fond, c'était le peak de l'Attitude Era. 17, 18, 19. Donc 2001, 2002, 2003. Puis après ça, on tombait dans la transition vers John Cena et compagnie. Mais le 19, retournez-y. Il y a Brock Lesnar contre Kurt Angle qui est de la bombe absolue. T'as des combats tag team aussi louches. Là, Team Angle, notamment, qui était très fort dans ce temps-là. On a un combat
avec Shelton Benjamin.
Oui, Shelton Benjamin puis Charlie Haas qui ont un combat contre les deux Guerrero. Puis Chris Benoit avait un partner aussi dans le temps, Rhino. Donc tu sais, c'est tout... Tout le monde était bon sur cette carte-là, mais les deux derniers combats, t'es comme « Wow, OK, puis, on est ailleurs. »
Justement, Rock avait jamais battu Austin à WrestleMania. C'est un peu l'histoire du match, puis en bout de ligne, c'est lui qui a eu le dessus.
Si vous êtes attentif, là, tu vois Rock à la fin chuchoter dans l'oreille à Austin. Puis Austin a confirmé par après que il l'a remercié. Là. C'était un peu... Là, Austin a resté avec la WWE dans le temps, mais c'était pas mal la fin d'Austin. Il n'y a pas eu de gros règne après ou de très gros moments. Là. Donc là, c'était le temps du Rock. Grosse victoire convaincante. Puis t'as eu sur la carte, dans un combat avec pas vraiment d'enjeu, HBK contre Chris Jericho.
Oui, non,
c'était de la bombe, là. Donc,
en même temps, moi, je préfère leur HBK Jericho, je préfère
quand
leur 2008, je pense, qui était une meilleure.
C'est plus intense.
Tant qu'à moi, rivalité entre les deux, là. S'il faut arriver à un consensus, moi, j'ai beau avoir un attachement émotif très personnel avec WrestleMania 30.
Ouais,
on a beau se rappeler des grands moments de Bret à WrestleMania 10. Je pense qu'on n'a pas le choix 17, de s'entendre 17, de dire que c'est 17 le meilleur WrestleMania de l'histoire.
Parce qu'on parle d'ensemble. On parle pas de moments. Là, on aurait une autre discussion. Si c'était les moments, on aurait des discussions. Mais la soirée au complet, 17 est à peu près sans faute.
On parle du pic. On parle carrément du pic de la lutte.
C'est l'ère mythique. Ben, la Golden Era avant. Mais l'ère qui a marqué la plus grande quantité de gens, c'est l'ère attitude. Puis ça, c'est le momentum.
Moi, la Golden Era de ma vie, c'est quand tu y es apparu.
on peut se faire un câlin, puis là, ça va être filmé.
On est un peu loin, par
c'est
exemple.
C'est presque pas awkward. Hein?
T'es juste jaloux.
T'es juste
parce que personne veut t'en faire des câlins à toi.
Ça va être correct.
On va faire le tour de l'autre côté, justement, à l'envers de la médaille, les pires WrestleMania, c'est quasiment plus le fun. Puis il y en a eu. On sait qu'il y en a eu des mauvais WrestleMania. On part-tu way, way back? On part-tu
On peut partir way, way back, je pense.
Parce que WrestleMania 2, c'est un mess complet du début à la fin. Puis moi, j'aurais été prêt presque à embarquer WrestleMania 1 dans la conversation. WrestleMania 1, c'est insupportable à écouter, c'est long.
C'est que ça vieillit.
Ça vieillit, c'est rempli de combats dont on se torche.
Ouais.
C'est WrestleMania 1. Fait que, tu sais, je vais y laisser le bénéfice du doute.
Il y a quand même une vibe, là. Tu sais, il y a quelque chose, même si c'est difficile à. Même WrestleMania 3, de façon objective.
WrestleMania 3,
c'est difficile à regarder.
On parle du plus grand moment, un des plus grands moments de l'histoire de la lutte qui sauve un peu l'événement, mais c'est.
Un peu
WrestleMania 2 a pas ça. a pas ce moment-là ou ces choses spéciales-là. Une weird idée d'essayer de faire l'événement dans trois endroits en même temps.
Pour ceux qui ne savent pas, là, la petite histoire, c'était trois amphithéâtres dans trois villes avec des télés en circuit fermé. Donc, tu étais dans ta ville, puis quand il n'y avait pas de combat dans le ring, tu regardais une grosse télé, puis les abonnés au pay-per-view qui commandaient l'événement, eux avaient comme nous une émission normale en continu. Donc, c'était... Il y a des venues qui ont eu trois combats pendant quatre heures. Là,
même la TV, ça passe pas bien. Puis, imagine, sur place, on trouve ça long à être à Raw des fois parce que tu sais il y a pas des pauses, c'est assez long. On se prépare au plus long WrestleMania de l'histoire probablement. Ouais. Mais là c'est une chose quand au moins il y a des combats en avant de toi, mais là quand tu es assis pendant des heures puis qu'il se passe rien.
Au moins la WWE a bien appris de ses erreurs puis a ajusté le tir pour Raw 25 l'année passée avec leur deuxième venue le Manhattan Center, je pense
qui était comme en fait, Manhattan Center et c'était-tu MSG ou Brooklyn l'autre,
je pense que c'était Brooklyn.
Il était dans la même ville puis le Manhattan Center c'était un clin d'œil au début de Raw.
Mais quasiment eu une émeute sur place parce qu'il y a pratiquement pas eu de match puis ça s'est mal passé.
Puis c'était la même chose, il y a des venues qui a eu des combats, tu avais un combat de 5-10 minutes puis pouf, tu t'en allais à l'autre venue. C'est comme OK, ben c'est le fun, merci. Puis c'était pas des bons combats.
Non, c'est ça, un show plate avec pas de combat mémorable pour vrai, c'est complètement oubliable.
Puis tu sais, c'est une critique qu'on pourrait faire à presque tous les WrestleMania avant le 10. Si vous avez pas grandi dans cette époque-là, c'est un peu difficile d'y replonger, mais pour la même raison que c'est difficile de replonger dans de la télé des années 80 si t'étais pas là. c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même façon d'interpréter les histoires. Donc, si t'as pas d'attachement émotif, là, tu retournes pas écouter du Symphorien si pour toi j'ai la tulipe, c'est un obscur inconnu. Là. Donc,
même Cormoran, c'est limite.
Tandis que les grands WrestleMania, tu sais, tu peux prendre un néophyte, lui faire écouter WrestleMania 17, puis je pense qu'il risque d'enjoyer quand même.
Il y a des moments. Puis les moments classiques sortent bien de ces contextes-là, comme André contre Hogan. C'est objectivement un combat très ordinaire. Mais l'amplitude du moment, tu peux l'expliquer à quelqu'un. WrestleMania 2, t'as beau chercher comment. King Kong Bundy contre Hulk Hogan d'une cage, c'est un hard sell. C'est pas très le fun.
Peut-être la meilleure façon d'au moins avoir un avant-goût d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemblait. Quand j'ai fait des recherches hier, je me suis dit, je vais pas regarder toutes les WrestleMania depuis 35 ans,
on s'entend.
Mais sur la page YouTube de la WWE, il y a un petit truc, là, chercher ou sur aller via Google, WrestleMania in 60 seconds, puis ils ont des résumés en 60 secondes de toutes les WrestleMania. Fait qu'en une demi-heure à peu près, vous faites le tour de toute l'histoire. C'est assez pour au moins voir à quoi ça ressemblait, comprendre les matchs principaux.
Ça, c'est une belle image qui représente c'est quoi la jeunesse d'aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle génération,
immédiatement.
Une version 60 secondes en accéléré.
Je suis capable de rester concentré.
Pourquoi lire un livre quand j'ai des cliff notes sur Wikipédia?
Les jeunes de nos jours. Un autre événement qu'on entend souvent quand on parle des pires WrestleMania, c'est le 9. On parle du pire affrontement, le pire adversaire, mettons, de The Undertaker, je pense. On s'entend que Giant Gonzalez.
C'est-tu lui le plus grand de l'histoire de la WWE?
J'aurais tendance à dire que oui. Sans faire de recherche, il était très grand. C'était autour de 7 pieds 7.
Ça, c'est le plus grand et le pire outfit.
Ça, c'est le genre de question qu'on lance. Un, soit si on l'a vérifié nous-mêmes avant, ou deux, si on dit aux boys, hey, checkez ça, puis je vais en parler.
On veut faire travailler le monde qui nous écoute.
Faites des recherches. Nous que Mathieu a tort, comme d'habitude, mais il est au moins dans le top 3. Je suis juste pas sûr à 100% si c'est le plus grand.
Puis avec une fin de show très controversée avec Yokozuna qui défait Bret Hart. À cause de Mr. Fuji, puis de la poignée de sel dans les yeux. Puis Logan se pointe, vient challenger, puis lui aussi remporte le titre en 22 secondes.
Pis ça, c'était étrange, parce qu'Hogan était présent sur la carte avant. Il y avait un combat par équipe contre Money Incorporated, le IRS, puis Ted DiBiase, qui a perdu. Donc, tu dis, c'est la présence d'Hogan. C'est un peu un spot nostalgie. C'est beau, merci, bonsoir. Puis là, il revient comme un cheveu sur la soupe. Il bat Yokozuna en 20 quelques secondes dans ce défi. Et vous remarquez que Hulk Hogan, il y a un œil au beurre noir en plus. Tout ce moment-là est bizarre. Hogan n'a pas d'affaire là. Il a un pied dans la porte. Là. Il est sur le bord de s'en aller de la WWF. Mais on a décidé que c'était son moment plus que celui de Brett. C'était pas le temps de pousser Brett dans la lumière au complet. Puis quand tu recules, c'est comme... quand ça se défend pas. C'est un moment juste inexplicable. C'est une fin en queue de poisson. En plus, tout le monde est déguisé en romain.
C'est ça, Caesar's Palace.
L'événement est déjà ridicule. Mm-hmm. La fin est ridicule. Puis le reste de la carte est pas... Il y a rien d'extraordinaire. Là. C'est des combats de gimmick. Là. T'as Crush contre Doink. Puis que ça finit avec Doink qui donne un coup de plâtre. Puis qu'il y a un clone qui vient déranger Crush.
Un clone de clown?
Oh, il y a un autre clown. Puis le Crush est dérangé. Parce que les clowns méchants sont deux. Puis c'est juste bizarre. C'est de la mauvaise lutte de l'époque. Là.
Mm-hmm. Les phrases qu'on peut juste dire en parlant de lutte.
Il y a deux clowns, puis des fois, il y avait des clowns nains. T'sais, c'est ça.
Quand est-ce que tu... maintenant qu'on a le vidéo, quand est-ce qu'on fait le show habillé en romain?
Oh! Moi, j'aurais l'air de Jim Ross sur son dromadaire. Là, un petit chubby qui a des oreilles de laurier. Là. C'est quand même une vision glorieuse que vous voulez tous voir.
Peu importe comment tu déguises, t'as l'air de la version petit chubby. T'as l'air d'un romain petit chubby. T'aurais l'air d'un... un zombie chubby déguisant en zombie.
Je serais le zombie qui fait pas de sens parce que je mange beaucoup.
C'est ça. Si on fait ça, moi je fais shotgun sur le costume de Cléopâtre.
Ok, c'est bon.
Ah,
okay.
C'est bon ça.
Un autre show qu'on parle souvent aussi quand on fait la liste des mauvais WrestleMania, c'est WrestleMania 27. C'est un show assez particulier. On parle en partant de Miz contre John Cena en main event.
Mm-hmm. Pis c'est pas de Miz là, c'est de Miz en 2011.
C'est de Miz avec qui les gens n'étaient pas nécessairement prêts.
Il avait gagné avec Money in the Bank, lui, championnat, c'est ça?
Si je me trompe pas. C'est une chose. Là, après ça, tu finis le show avec The Rock, qui est le host, qui vient mettre ton aspirant, qui est ta plus grosse vedette, et ton champion sur le dos. C'est Rock qui finit le show.
Ouais.
Donc là, Miz retain pour perdre la belt le lendemain, c'est un peu un mess. Mm-hmm. Puis dans le reste de la carte, Michael Cole qui affronte Jerry Lawler.
Voir Michael Cole en costume de lutte amateur, c'était un souvenir traumatisant. Là, puis c'était très mauvais, sans surprise, là, mais pourquoi c'était là? C'est WrestleMania, tu t'encombres de patentes du genre.
Il n'y avait pas un finish louche là aussi que finalement ils ont changé la décision parce que l'arbitre avait comme
Cole contre trop, Lawler, ça?
Ouais, c'est oh, ça. Il avait genre exploité son autorité de façon illégitime. Là,
puis, ça se peut. Il faudrait que tu le réécoutes puis que tu nous fasses un rapport parce que moi j'ai fait moyen ça de ma mémoire.
C'est Big Show, Kane, Kofi Kingston, Santino Marella qui battent The Core.
Ah ouais, puis il faut se souvenir que D-Bry perd en 18 secondes pour ouvrir le show. La seule affaire qui sauve cette soirée-là, c'est Triple H contre Taker.
Randy Orton, CM Punk ont fait un bon combo aussi.
Mais tu sais, Orton gagnait. Fait que c'était avant que Punk commence à avoir des pushes.
Trip Taker, c'est dans la cage, ça?
Non, c'est le No Holds Barred. C'est le deuxième, mais le premier de leurs deux en deux ans.
OK, ouais, ouais.
Fait que pour ces raisons-là, comme on vient de dire qu'ils ont moins quelques bons combats, je pense que ça peut pas être le pire.
Non, c'est moi, pas le pire. C'est un mauvais moment.
Honnêtement, je vois pas comment c'est pas WrestleMania 2 le pire de l'histoire. C'est un mess total du début à la fin.
J'ai la misère à m'enlever le 9, puis j'enverrai le 11 dans la liste aussi. Il y a pas beaucoup de gens qui s'en souviennent du 11, mais t'as Lawrence Taylor, un joueur de football, on vous le rappelle, membre du temple de la renommée de la NFL, qui fait le main event contre Bam Bam Bigelow. Pas de championnat. Puis pourquoi on avait choisi Bam Bam? C'est parce qu'on jugeait qu'il était capable de transporter Lawrence Taylor assez longtemps pour faire un combat de lutte. C'était... À la défense de Lawrence Taylor, c'était moins épouvantable que ça aurait pu être. Mais on parle d'un joueur de football à la retraite qui ferme WrestleMania contre... sans rien enlever à Bam Bam Bigelow, c'était pas un main event de WrestleMania.
Il a sorti quand même des moves de lutte un peu, là. C'était pas juste.
Oh, il a appris à faire une corde à linge, une descente de la cuisse, un body slam, mais c'est Bam Bam qui a fait tout de A à Z. T'as HBK contre Diesel, dans le temps qu'HBK était méchant, qui est correct, tu sais, sur papier, tu dis, ah, OK, les membres de la clique, d'habitude, ils donnent des bons combats, mais là, t'avais Pamela Anderson dans le coin de Diesel, t'avais Jenny McCarthy dans le coin d'HBK, toute l'attention était mise sur les vedettes du combat, puis ton championnat du monde, c'est un peu tout croche. T'as Bret Hart contre Bob Backlund, mais Bob Backlund a genre 55 ans, ça... C'est pas intéressant. T'as un combat épouvantable aussi entre King Kong Bundy pis l'Undertaker. Donc, la carte, là, de A à Z, t'es juste, hein? Tu sais, mon meilleur combat de la soirée, c'était le championnat par équipe avec Owen Hart et Yokozuna contre les Smoking Guns. Pour vous donner une idée d'à quel point cette carte-là plafonne pas beaucoup, là. Yokozuna t'es pas très mobile en 95. Puis les Smoking Guns, ben, ça venait avec leurs limitations puis des bottes de cowboy. Là. Donc, c'est ça mon moment fort de WrestleMania.
Il y a quasiment plus de candidats au pire WrestleMania que de candidats au meilleur WrestleMania.
Y a
c'est malheureux,
quand même
mais
pas mal. Puis tu sais, il y en a qui ont moins regardé les plus vieux, donc quand ils pensent à des mauvais WrestleMania, ils vont penser aux années Cena. Mm-hmm. Puis c'est vrai, mais tu sais, dans un spectacle de 3 heures, souvent t'as des bons moments. Donc tu sais, oui, tu peux être pas d'accord avec le main event. Mm-hmm. Il va y avoir des épouvantables décisions, mais c'est dur de juste dire ah, cette 3 heures-là vaut pas la peine, on le discarte. Tandis que quand tu remontes justement le 2, le 9, le 11, c'est des soirées de 2 heures et demie. Mm-hmm. Si t'as juste un combat potable en 2 heures et demie, tu peux pas faire autrement que juste tout prendre la carte puis l'acheter au vidange. Ouais. Donc oui, on a l'impression qu'on fait du bashing sur la vieille WWF. Mais c'était hit or miss. Si tu manquais ton coup, tu le manquais solide. Tandis que là, tu sais, cette année, il y en a 17. Mettons qu'on a 4-5 bons moments, on va ressortir content, même si on a passé 8 heures sur des bancs en bois d'un stade de football.
Minimum.
On sera peut-être pas content sur le coup, mais après ça, on va repenser à nos souvenirs, on va dire. C'est un bon moment.
Autre grande question que je veux qu'on aborde assez rapidement, en 10 minutes.
Mm-hmm. On va se pogner.
On parle souvent du concept de Mount Rushmore. Les visages que tu es prêt à graver
sur une
montagne.
C'est quoi le Mont Rushmore, François?
Le Mont Rushmore, c'est un monument, pas un monument, mais c'est un endroit dans le Dakota du Nord, si je me trompe pas.
Je savais que c'était un des Dakota.
Il me semble que c'est... Non, c'est Sud.
Je sais pas, c'est un des Dakota.
C'est Sud, parce que Nord, ils chialent, qu'ils ont rien,
faites vos recherches.
Faites vos recherches. Avec le visage de 4 grands présidents américains. Mm-hmm. Et là... Quel visage on mettrait si on voudrait en faire un pour le monde de la lutte? Mm-hmm. Là, je pense qu'il faut aussi établir les règles de la question. On parle pas juste du meilleur lutteur dans le ring. Je pense qu'il faut qu'on regarde lutteur comme un terme plus global. Il faut prendre en considération l'impact dans la business, les talents au micro, tu sais, tout et tout. Je pense qu'il faut regarder les package deals.
Ouais.
Est-ce qu'on s'entend qu'il y a 2 noms qui ne sont pas négociables pour aller là-dessus?
Moi, j'en ai 2 aussi. On n'a peut-être pas les mêmes 2. Je sais pas si ça va se pogner.
Hulk Hogan et Steve Austin ne sont pas négociables quant à leur présence là-dessus. Ils sont intouchables.
À cause aussi, parce que moi, il y a un truc que quand j'y pensais, je fais un peu abstraction de la carrière à l'extérieur de la lutte. Pas le rayonnement, mais la carrière extérieure. Comme Hulk Hogan est un intouchable, pas parce qu'il était acteur et tout, parce que Hulk Hogan était invité à Saturday Night Live comme Hulk Hogan. Quand tu parles de lutte à tes parents, ils pensent à Hulk Hogan. Ils pensent pas à l'acteur.
Tout le monde le connaissait, même sans écouter la lutte. Tout le monde s'est écouté. C'est moi-même, dans la cour d'école, là, quand j'étais au primaire, j'écoutais pas ça, la lutte, mais je savais c'était qui Hulk Hogan. Je savais même c'était qui Macho Man, on s'entend, là, mais Hulk Hogan, c'était lui qui avait marqué l'imaginaire.
C'est ça. Fait que tu sais, il a rayonné, il a eu une carrière à l'extérieur, mais en tant que lutteur. Puis c'est pour ça que lui est intouchable. Austin aussi. Austin n'a pas vraiment fait grand-chose d'autre. Et ça m'a permis de disqualifier des noms qui ont eu des grosses carrières puis qu'on considère comme... Je vais y aller, là. Moi, The Rock fait pas la cote.
Ouais, ben si on a choisi juste 4...
C'est ça le problème avec The Rock, c'est qu'il est techniquement, il est 1B dans son époque. À lui, il n'est pas le plus gros nom de son époque. Mm-hmm. Il a fait des choses... extrêmement intéressante, il est extrêmement populaire, un des grands champions, un des grands personnages lutteurs de l'histoire, il n'y a pas de doute. Mais de là à dire qu'il est dans les 4 en haut, il n'était pas le meilleur de son temps. Il était numéro 2 dans son époque à lui.
Tu peux faire l'argument que The Rock est plus populaire comme vedette d'Hollywood que comme lutteur.
Ah ben
maintenant, les jeunes qui ne l'ont pas vu lutter, The Rock, c'est le Schwarzenegger de sa génération au cinéma. Mm-hmm. Là, donc, il est très, 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 très populaire. C'est une immense vedette, mais pas juste dans le monde de la lutte.
Qu'est-ce qu'on fait avec Bruno?
Ben, Bruno, je pense que justement, si on disait que Hulk Hogan était connu par tout le monde qui ne connaissait pas la lutte, Bruno Sammartino, j'ai pas l'impression que c'était le cas. Faut dire que c'était avant qu'on naisse, là.
J'ai pas l'impression que
mes parents, mettons, connaissaient Bruno Sammartino.
Ça l'était quand même. Dans le nord-est des États-Unis. C'est qu'à l'époque aussi, il y avait, tu sais, la télé était moins rayonnante, puis on parle des années 70. Moi, j'ai comme pas eu le choix de le mettre.
Ouais.
C'est trop une longue
choisir juste 4, tu mets Bruno Sammartino.
Parce que, tu sais, mettons, je faisais l'exercice pour d'autres disciplines, mettons, le cinéma et peu importe la musique. C'est comme si je disais, ah, OK, mais là, mettons que je fais un top de cinéma, ben, j'écarte-tu toute l'époque des studios parce qu'on les connaît moins aujourd'hui? Tu sais, Bruno Sammartino, c'est 10 ans de lutte. Ouais. C'est une crunch. T'es allé à New York dans les années 70, ce gars-là était larger than life. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est... La lutte voyageait moins aussi à l'époque, donc c'était un peu normal, mais tu sais, je faisais l'exercice, puis comme, qui je mets à sa place? Le seul autre nom qui me venait, qui avait cet impact-là dans cette époque-là, avec cette rayonnance-là, c'était André the Giant. Mm-hmm. Parce que...
Lui était plus grand que ça, lui était connu à l'extérieur.
La carrière de lutte de Bruno est juste incomparable. Même si c'est une question d'époque, puis que les règnes de 5 ans, ça venait avec, puis ils se battaient moins souvent, mais ils se promenaient partout aux États-Unis, puis ils arrivaient, puis c'était, OK, le champion de l'Ouest affronte Bruno. C'est un sold-out, 10 000 personnes, peu importe où ce qu'elle est. T'arrives au Texas, on y envoie un des dos de gros Texas, OK, il affronte Bruno. Donc, c'était lui la business pendant trop longtemps.
On peut pas diminuer l'impact qu'il y a eu pendant.
C'est parce que nous, on est jeunes, on l'a pas vu, mais tu sais, quand t'as quelqu'un qui définit une business à ce point-là, t'es comme, je peux pas ne pas le mettre.
Pour mettre les choses en perspective, quelqu'un faisait réaliser sur Reddit cette semaine que pour avoir, mettons, un équivalent aujourd'hui d'un règne de champion comme le gros règne de San Martino, il faudrait que CM Punk soit encore champion aujourd'hui par rapport à quand il l'avait gagné. Genre,
c'est inconcevable. C'est comme, pour nous autres, ça compute juste pas, mais c'était la réalité de l'époque. Mais en fait, c'était pas la réalité de l'époque, c'était la réalité de Bruno. Parce que c'était lui la business. Il n'a pas eu d'autres des champions de 5 ans. Là.
Okay. Fine.
OK.
On fait quoi avec le quatrième spot?
Ben, moi, j'ai une question à poser.
Ouais.
On s'entend, c'est les figures les plus importantes de l'histoire de la lutte. Vince McMahon, est-ce qu'il mérite d'être là?
Non.
Parce qu'il n'y a personne d'autre que lui qui a eu plus d'influence.
Je comprends ton point.
Ouais. Puis il a lutté, mais en même temps, des matchs mémorables.
Ouais, mais
Vince, c'est le gars qui paye pour aller sculpter. Tu sais, je veux dire, il y a. Je pense qu'il faut le.
Mais c'est quand même un bon esprit de lutte, là. Tu sais, il a amené la lutte ailleurs en tant que storyteller. Moi, c'est plus dans cette perspective-là que
c'est vrai que c'est
un
gros personnage de lutte, mais encore là, il est spécifique à un endroit et un moment.
Ben, ouais.
Mais ouais, je comprends ton point. J'haïs pas le point.
Il y a un point d'interrogation à côté de son nom sur ma liste, là, mais je me demandais s'il rentrait dans les règles du jeu, justement.
T'sais, il faudrait quasiment que le hall d'entrée soit sa face. Là. Comme, c'est le bâtisseur pour rentrer au Mont Rushmore. C'est la bouche à Vince.
En arrière du Mont Rushmore, il y aura une plus grosse montagne avec la face à Vince.
Non, c'est sûr, mais...
Si on garde, mettons, là, on garde ça
des lutteurs,
à l'intérieur du ring... Parce que là, il y a plein de noms dans le dernier spot. Tu sais, je veux dire, on peut parler de Flair.
Ben oui.
On peut parler de Taker. Il y a toujours Shawn Michaels puis Bret. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres?
Même Triple H, à la limite, si on avait à choisir juste 4, je pense pas qu'il ferait la coche, mais il est pas loin. Il est dans la deuxième batch de 4.
Tu sais, on soulève le débat. Il y en a qui pourraient mettre Cena, à la limite. Ben peut-être, peut-être que c'est trop tôt, mais je vois pas comment ça peut pas être Flair.
Ben, moi, c'est ça. Lui.
Ric Flair aussi a été le synonyme de son époque. En parallèle à Hulk Hogan, c'était pas une plus petite vedette. C'était juste pas le même rayonnement. Ric Flair, pendant 20 ans, c'était la lutte. C'était The Man. C'était le traveling show de la AWA. C'était la vedette des Crockett. C'est parce qu'on on fait moins le recul à cause des pay-per-view, à cause de Raw, puis de la lutte à la télé. Mais la lutte des années 80, c'était une affaire de « t'es-tu capable de remplir ton stade quand tu y vas? » Puis les Crockett le faisaient aussi bien que McMahon. Puis c'était Ric Flair. Dusty a sa grosse part à jouer, mais pour avoir un bon gentil comme Dusty, ça prend un ciboire de bon méchant. Puis Ric Flair était the cream of the crop. Puis tu sais, il y a des carrières qui sont comparables, mais à chaque fois que je mets un nom à côté de Ric Flair, je suis comme « ouais, mais c'est pas Flair. » Tu sais, HBK, Brett, Tripp, même Cena, c'est comme, ouais, mais c'est pas Flair. Donc, c'est toujours ma contrepartie, c'est ouais, mais c'est pas Flair.
Bon, ben, ce qu'on va faire la prochaine fois pour se donner une conversation qui peut être un peu plus ouverte, on va faire l'espèce de Hall of Fame pyramidal. C'est-à-dire que par tiers,
on a déjà parlé
de ça. Avec que tu peux pas tout le monde être en. Tu sais, c'est pas le Hall of Fame, c'est pas juste, ah ben. T'es Hall of Famer, t'es égal à tout le monde. Non, il devrait avoir des paliers. Puis c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. C'est le moment de l'émission tant attendu, en fait. Peut-être le moment que vous attendez.
Tant attendu.
Peut-être la seule raison pour laquelle vous écoutez l'émission. On a deux paires de billets à faire tirer pour Roy SmackDown. Stéphane va créer sur Facebook un endroit où vous allez pouvoir... Ce qu'on vous demande, c'est de venir nous partager vos meilleurs souvenirs de lutte live. Donc, racontez-nous ce moment-là. Taguez la personne avec qui vous voudriez aller à Raw ou à SmackDown.
C'est assez facile.
Et au travers de tout ça, on va faire, tirer les deux paires de billets. Moi, mon meilleur souvenir en direct.
Direct quand tu étais sur place ou à TV?
Sur place. Moi, je pense que, il y a entre autres, il y a le Raw après WrestleMania. notre première date.
Oui.
Après WrestleMania 18, ça.
Après WrestleMania 18, en 2002, à Raw Montréal.
On était jeunes, imberbes.
Puis j'ai un bon souvenir aussi, un très, très bon souvenir du premier TOW qu'on était allé voir à Blainville. Ça avait été tout un show.
Là, s'il y a des gens qui, malheureusement, n'ont jamais eu la chance d'aller voir de la lutte live, est-ce qu'ils peuvent dire le tiraillage dans le sous-sol avec mon frère?
C'est ça.
Au moins.
On est conscient que c'est pas tout le monde qui a été voir la WWF ou peu importe la fédération en direct.
Les fans qui seraient plus jeunes aussi. Ouais.
Sinon, créez vos souvenirs. Allez au MTLUS samedi pour la
AWS.
Tout est dans tout. Gros show à la AWS samedi au MTLUS. Reste encore des billets. Donc, nous, on a eu du fun à la TOW dans le temps. Uh-huh. Peut-être que ça va être ça, votre déclic.
Ouais, ça risque d'être quelque chose en plus en fin de semaine. Mm-hmm. Familial, les enfants peuvent être là, contrairement à quand on est au Unity.
Exact. Donc, mais si vous voulez rire de nos bons souvenirs, j'étais au Montréal Screwjob.
Ah ouais, c'est vrai.
Donc, il était pas vraiment.
J'ai manqué à la fin parce que mon père voulait battre le trafic. Fait que dès que la cloche a sonné, on était en train de se lever et on est sorti de nos bancs. Donc, tu sais, j'ai vu la fin du combat, mais j'ai absolument rien vu de tout le clusterfuck après. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. J'avais comme 13-14 ans. C'était pas un screwjob dans ma tête, c'était juste un pay-per-view correct. C'était un bon pay-per-view, mais c'était pas un moment magique.
C'est pour des choses comme ça qu'il brûle en enfer aujourd'hui.
Ouais, essentiellement, là, c'est ça.
Donc c'est plus ton pire souvenir de lutte live.
C'est mon pire meilleur souvenir de lutte.
T'étais presque là.
L'occasion manquée.
J'étais là, mais pas là. Mm-hmm.
On prend un petit moment pour parler d'actualité, OK, parce qu'il s'est passé quelque chose assez intéressant cette semaine, principalement à SmackDown Live. Kofi. Le gauntlet qui a lieu, Kofi qui réussi à vaincre tout le monde, célébration, les gars de New Day qui se peuvent plus. Vince se pointe pour annoncer que, ah non, il y a un autre adversaire, c'est Daniel Bryan. Ouais. Daniel Bryan triomphe contre Kofi pour l'empêcher d'aller à WrestleMania. Puis là, je vous amène à après le show, dans les réactions à show qui sont sorties en exclusive sur le site de WWE, où Xavier et Big E commencent à parler même de quitter. Là, chacun de leur côté, des messages sur les réseaux sociaux. Xavier qui dit, moi, je fais partie de la communauté du jeu vidéo, je peux gagner ma vie avec ça, c'est peut-être le moment de faire le move. Big E qui va plus loin même en disant, tu sais, on dirait que c'est ça la limite pour des gens comme nous.
People like us. Ça, c'est une des clés. Le jeu
que
la
Vince a dit. C'est un retour sur ce que Vince a dit il y a deux semaines.
Ben justement, la semaine dernière, on en parlait à l'émission, tu te demandais à quel point il était conscient de ce qu'il disait en disant « people like you », en disant « mais avec la feuille de route, le VE, le racisme », mais comme toujours un petit peu latent. Là, j'ai l'impression, surtout avec la promo de Big E, qu'on s'entend qu'il est working, qui décide d'y aller all-in dans la carte, raciale.
On brise le kayfabe d'une manière assez...
Mais on brise la bonne manière, c'est ça.
On s'est plaint du côté de Ronda Rousey, comment c'est fait. Bon, on a l'impression qu'ils franchissent une ligne qu'ils ne devraient pas franchir, là, le côté, ben, quand on se bat, on se bat pas pour vrai. Ce qu'ils font du côté de New Day, c'est pas ce kayfabe-là, c'est pas l'efficacité des attaques qui est mise en question, c'est justement toutes les politiques backstage et justement la question raciale. Puis, tu sais, des fois, on se plaint que la WWE est tone deaf un petit peu, mais pensons aux Oscars, mettons, cette année. C'est comme une année où il y a une espèce de momentum, justement, avec la cause raciale. Puis j'ai l'impression que c'est l'angle qu'ils vont essayer d'exploiter, qu'ils vont couronner pour la première fois, de façon officielle, un champion noir, si on considère que The Rock rentre pas dans cette catégorie-là.
Ouais, puis c'est intéressant dans la mesure où ils ont juste deux semaines pour le faire. Ouais. Ils vont peut-être le faire en version accélérée. Mais ça alimente des discussions. Tu sais, tu parlais un peu du tone deaf puis du fait que les Oscars sont plus politisés. C'est cette semaine, j'ai vu quelques endroits, dont des podcasts où Booker T a passé, que là, la question, c'était « Êtes-vous capable de nommer 20 lutteurs noirs? » Puis la question, au début, t'es comme « Ben, c'est un pet. » Quand tu t'assois puis que tu fais ta liste, puis t'es comme « Hey, t'as peu, faut que je réfléchisse. » C'est pas supposé être difficile à ce point-là nommer 20 lutteurs alors que l'alignement de la WWE a comme 150 noms dessus depuis 15 ans.
Quand t'as pas le choix de mettre Viscera dans ta liste.
Ça fait 35 ans. J'ai joué 35 ans, ça fait 35 ans, je regarde la lutte, puis il a fallu que j'y pense pour me rendre à 20. Je peux en nommer plus que 20, mais c'est pas instinctif. Ouais. La question est légitime. Là, on joue sur la ligne, évidemment. Puis on a l'exemple du bon brisage de kayfabe. Puis à Raw, t'as Travis Brown qui empêche Fab Blonde de se battre. C'est comme...
On va remettre d'ailleurs un paquet sale spécial.
Oh! On donne des paquets sales?
Oui, non.
J'ai comme un frisson, là.
à notre ami Bully Ray, qui sur Twitter a la pire idée de l'histoire. Là. Il a tweeté pourquoi pas Brown dans le coin de Ronda, Rick dans le coin de Charlotte, puis McGregor dans le coin de Lynch. Mais comme si on avait besoin de venir mettre des hommes au travers
de l'histoire. On en a zéro besoin, mais si tu pitches cette idée-là à Vince demain matin pour le convaincre que c'est ça qui ferme le show, penses-tu qu'il le fait?
Connor, tu prendrais-tu le risque avec Connor? Un, il va te coûter une fortune. Deux, c'est une espèce de wild card que tu sais pas ce qu'il va arriver.
On parle de Vince McMahon. Ouais. Il y a déjà deux éléments sur trois en place. Il y a juste Connor à installer.
Mais c'est ça, mais c'est une idée de merde qui n'aurait jamais dû être prononcée. Là.
Mais il l'a fait aussi pour dénoncer l'idée que Travis Brown n'a pas d'affaires là.
Ouais, tu penses? Hein?
Ben oui, non. C'était, c'était une flèche. Là. Bully Ray, il est en semi-bon terme avec l'AI. Puis sa flèche étant, c'est overwork to death. Là. Ouais. C'est beaucoup trop de jobs. On dirait qu'ils ont peur qu'on soit pas investi dans le main event alors qu'on l'était au Survivor Series.
C'est ça. Puis que là, il nous coule.
Donc, c'est typique WWE de trop en mettre. Moi, écoute, si l'idée avait été pitchée, puis Connor disait hey, « c'est un chèque d'un million », Vince le fait demain matin, sans broncher. Là. Puis c'est ça qui est décevant.
La meilleure nouvelle qu'on a appris cette semaine, je pense, c'est l'annonce de qui allait affronter Kurt Angle à WrestleMania. C'est comme « Baron, Baron ». C'est exactement le combat qu'on espérait. Ouais. Mm-hmm. Ma question que je vous pose, c'est « Est-ce que c'est le combat de WrestleMania, à votre avis? » Est-ce que Kurt Angle contre Baron Corbin, c'est réellement un combat one-on-one qu'on va voir à WrestleMania?
C'est sûr qu'automatiquement, quand on a vu l'annonce, ils vont la pas première chose qu'on a pensé, c'est « Non, mais ça sera pas ça qui va se passer pour vrai. » C'est en attendant, mais semble-t-il, les rumeurs qui sortent, c'est que non, c'est pas un swerve.
C'est ça qui arrive, parce que là, ce qui arrive, c'est que ça a l'air d'un swerve. Ça peut pas ne pas être un swerve, mais là, l'écho qui sort, c'est que Angle, il se fait un peu obligé à prendre sa retraite, puis il est pas content.
Ah ouais.
Donc, il pourrait juste quitter, faire un Ric Flair, puis aller lutter ailleurs.
Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'était qu'il voulait quitter, mais il voulait un adversaire plus high profile.
Ouais, ben c'est ça, mais là, il l'a pas, puis là, c'est ça, ça a l'air qu'il est pas content, fait qu'il retournerait peut-être
sa femme a été extrêmement vocale le soir même sur les réseaux sociaux. Tout a été délité depuis, mais on s'entend que c'est...
Il y a le montage sur Reddit avec l'affiche officielle WrestleMania, mais ils ont remplacé Baron Corbin par un container en feu. Donc, c'est dumpster fire.
Ouais. Tu sais, côté storyline, il y a des raisons de faire ce match-là, mais...
Il a déjà perdu en plus de façon cavalière contre Baron Corbin. Aucun intérêt.
C'est parce que, tu sais, c'est qu'on a eu dans le Raw lundi un match, bon, Chad Gable contre Kurt Angle. Et ça, bon, on s'entend que c'était un match qu'on avait envie de voir. C'est un peu l'idée de passation de la flamme.
Angle-Avier.
Mais on a besoin justement d'un worker comme Chad Gable qui est capable de bien faire paraître Kurt Angle. Parce que rendu là c'est plus facile pour lui. Là, juste se relever debout, là, ça semble être un défi. Non, fait que, tu sais, est-ce que Baron Corbin, c'est vraiment lui qui peut bien faire ça? Est-ce que ça peut être autre chose qu'un squash ou
un street fight? Puis
moi, je vais même dire que Angle Gable, là, qu'on nous a donné à Raw, on n'aurait pas dû nous le donner.
Non,
je pense qu'il y avait.
Malaise,
Gable a de la misère.
Il y avait. On avait une vision de ce combat-là, de ces deux lutteurs-là dans leur prime qui se ressemblent beaucoup, qu'on n'aurait pas dû briser parce que là, en faisant le combat avec un vieux Angle, c'était pas, ça avantageait pas ni un ni l'autre.
Ah non, joyeux du monde disait, hey, quand même, Chad Gable a sorti un bon match à Kurt Angle. Je suis comme, de quoi vous parlez? Mais c'était pas un bon match. Là. J'avais comme les molaires serrés tout le long en me demandant, tu sais, si ça allait mal finir, si elle était capable de se relever. Tu parlais de Shane McMahon qui finit ses matchs, la face rouge, tu sais.
Oh, il y a
d'un
gars,
c'était ça après trois minutes, là aussi. Là.
C'est comme, il y a une barre de métal à la place de la colonne vertébrale, puis ça paraît. Donc, c'est quoi, c'est la distribution des paquets sales, ça?
Non, c'était juste Bully Ray.
Ben moi, j'ai un paquet excité à distribuer.
Oh, vas-y.
Un gros paquet excité. PCO a gagné deux ceintures à ROH en fin de semaine.
Yes.
Champion par équipe en défaisant les Briscoes, puis champion par équipe de 6 et par équipe de 3 en défaisant de Kingdom. Back-à-back, vendredi, samedi à la ROH. Donc le PCO,
c'est un de mes running gags préférés de toi et Ben dans le show de lutte, les champions par équipe de 6 de 3.
Donc écoute, on s'entendait peut-être un petit peu au match par équipe, mais là, tout d'un coup, pow! Mm-hmm. On veut convaincre convaincre Marty's Girl
ça.
Que ça vaut peut-être la peine qu'il reste avec le Villain
est-ce,
Enterprise.
Est-ce qu'on va lui donner même la belt à Marty au G1 Supercard?
Championnat du monde au G1, là, ça veut dire que PCO puis Brody King affrontent Tamatonga puis Tongarua.
Brody King est blessé, il s'est fait mal à la main. Il a enlevé des bookings indie. Là.
Donc, je sais pas que ça va avoir l'air au Supercard, mais tu sais déjà que ça va être un combat de Ross. PCO a pas d'allure. Il a pris des bumps. Mm-hmm. Le combat des Briscoes, on va assurément le présenter à RDS. On faut juste décider quand. Là. Mais écoute, les bumps qu'il prend...
Pour toi, qui décide ça.
Hey, là, on va présenter le combat de PCO à ROH. Quoi qu'il est vraiment sanglant, là, c'est vraiment... C'est un war de table.
On va vous arranger quelque chose.
Puis écoute, là, il prend un bump à un moment donné du troisième corps sur des tables dehors. Puis t'es comme...
Un de mes amis qui est médecin qui était excité la fin de semaine passée de me dire qu'il avait recousu PCO.
Ouais.
Points
de c'est ça.
On
va vous parler de toute cette carte-là d'ailleurs, le G1 Supercard la semaine prochaine en même temps que le show d'NXT. Donc, on vous rappelle, Stéphane va poster sur Facebook un souvenir, vous postez un de vos meilleurs souvenirs de lutte, idéalement en direct, sinon juste à la télé, en taguant la personne avec qui vous voudriez aller voir Raw SmackDown. On va faire tirer nos paires de billets au travers de ça. On vous invite fortement à venir au MTLUS ce samedi. Je sais pas quelle heure l'ouverture des portes.
C'est 19h30. Les portes ouvrent à 7. Il y a un combat pas annoncé à 7h15. Puis la carte officielle commence à 8.
Ça va être tout un show. On parle de probablement l'un des plus gros shows indépendants de l'histoire à Montréal. Là, ça va être quelque chose.
Des surprises, beaucoup d'invités. Ça va, on a du temps. Il n'y a pas de contrainte de temps cette soirée-là. Mm-hmm. Je pense qu'on est là pour un bon 3 heures de lutte. On va avoir du fun. Mm-hmm. T'es là, Mathieu?
Je suis samedi.
On ne pas.
M'arranger, ouais.
Ah bon, c'est bon. Fait que on vous invite à continuer de nous écouter. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Mm-hmm. On espère que ce joli minois-là va vous garder à l'écoute encore plus longtemps.
Puis là, en plus, là, cette semaine, on était en grève en cycle. Je me suis pas habillé
c'est
comme
vrai,
à l'habitude. Là, je suis comme habillé sloppy un peu.
T'es habillé en vulgaire plèbe. Ouais, c'est ça.
Maudit païen.
Non, les sous vont sortir la
semaine
prochaine.
Attendez les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Puis on se reparle très bientôt.